Avertissement du rap Grande Culture, numéro 15, du 6 août 2021, lu par Isabelle Fréchette. Dans cet avertissement, il sera question du syndrome de la mort subite dans le soya, du suivi des adultes de la chrysomèle des racines du maïs, d'un cœur apporté en Outaouais de légionnaires uniponctués, de la pourriture asclérote, que faire en cas de symptômes de la maladie, du vert gris occidental des haricots, et du puceron du soya. Cas de syndrome de la mort subite dans le soya. Le laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC a rapporté avoir reçu des échantillons de soya atteints par la maladie du syndrome de la mort subite en provenance de deux champs cette année, localisés en Montérégie. Même si la présence de la maladie au Québec a déjà été suspectée par le passé, c'est l'année dernière qu'un cas a officiellement été identifié pour la première fois dans la province, dans un champ au centre du Québec. Le syndrome de la mort subite pourrait également toucher d'autres régions du Québec. Cette maladie est causée par le champignon Fusarium virguliforme qui, lorsqu'introduit dans un champ, reste dormant pendant de longues années et peut donc infecter le soya quand les conditions sont propices à son développement. Si l'infection est sévère, les pertes de rendement peuvent s'élever à 30 %. D'autant plus inquiétant, cette maladie peut être associée à la présence du nématodachyste du soya. Si des symptômes sont observés, il est recommandé de faire analyser les plants pour identifier la maladie. Si jamais la présence du syndrome est confirmée, il serait pertinent de faire la prise d'un échantillon de sol pour l'analyse du nématodachyste. Symptômes de la maladie. Les symptômes apparaissent après la floraison du soya. Les plants flétrissent rapidement. Un jaunissement entre les nervures peut apparaître. Progressivement, ces taches s'étendent sur toute la surface de la feuille qui finira par brunir. Si les feuilles se détachent du plant, les pétioles resteront attachés à la tige. La maladie ne provoque pas toujours des symptômes foliaires. Les racines brunissent et pourrissent. À ne pas confondre. Le syndrome de la mort subite dans le soya peut être confondu avec la fusariose vasculaire, la pourriture brune des tiges, le chancre des tiges et la pourriture phytophthoréenne. Vous pouvez consulter le document « Maladie du maïs et du soya » Des symptômes apparaissent dans les champs pour plus amples détails sur ces maladies. Voici quelques stratégies de lutte pour prévenir le syndrome de la mort subite. Utilisation de cultivars tolérants au syndrome de la mort subite et au nématodachyste du soya. Semis réalisés dans un sol suffisamment sec et réchauffé. Ne pas semer trop tôt réduit les risques de la maladie. Introduction d'une céréale dans la rotation. Le syndrome ne peut se développer dans la culture du maïs, mais les résidus de cette culture peuvent entretenir la maladie. Appliquer les principes de biosécurité pour restreindre la dissémination du nématode au sein de l'entreprise. Pour en savoir plus sur le nématodachyste du soya, consultez la fiche technique produite par le RAP Grande Culture. Afin de s'assurer du diagnostic, il est préférable de prélever au champ des plants malades, mais pas complètement dépéris, et de les envoyer pour identification au laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC. Dans l'avertissement, vous trouvez une vidéo expliquant la méthode de prélèvement et d'envoi. Suivi des adultes des chrysomèles des racines du maïs. Depuis quelques semaines, les adultes des chrysomèles des racines du maïs de l'ouest et du nord émergent du sol dans certains champs de maïs. Les dommages racinaires causés par les larves sont terminés dans la plupart des cas et peuvent servir à déterminer si des mesures sont à prendre l'année prochaine contre ce ravageur. Dans l'avertissement, vous avez un lien pour accéder au document où on explique comment faire cette évaluation. Le suivi des adultes est aussi utile pour déterminer si des mesures sont à prendre l'année prochaine dans le cas où une rotation n'est pas envisageable. Le suivi des adultes peut être fait par observation visuelle, c'est-à-dire compter le nombre de chrysomèles observés par plant de maïs sur une centaine de plants en parcourant le champ, par exemple 10 stations de 10 plants. Ce dépistage devrait être fait une fois par semaine à partir de la mi-juillet, fin juillet, et ce, jusqu'à ce que les populations observées aient diminué. Le seuil économique d'intervention est de 2 chrysomèles du nord par plan ou de 1 chrysomèle de l'ouest par plan en moyenne. Ces insectes bougent beaucoup lorsque dérangés, donc il faut approcher les plantes doucement pour bien évaluer les populations. Les chrysomèles adultes peuvent être observés en train de s'alimenter de différentes parties aériennes des plants de maïs. La méthode des pièges collants jaunes est plus simple et fiable pour évaluer la population de chrysomèles adultes. Elle consiste à installer, vers la mi-juillet, 4 pièges collants jaunes dans le champ de maïs en évitant les extrémités et les bordures. Installer les 2 premiers pièges, espacés d'au moins 60 pas, sur un rang, puis les 2 autres pièges sur un second rang éloigné d'au moins 40 rangs du premier. Fixer le piège à la tige du plant de maïs, la surface collante vers l'extérieur, à la hauteur de l'épi en utilisant les attaches fournies. Briser quelques feuilles à proximité pour éviter qu'elles ne se collent sur le piège. Changer les pièges aux 2 semaines jusqu'à la fin août. Dans l'avertissement, vous aurez le lien pour accéder au site web du fournisseur de pièges collants utilisé par le RAP. Toutefois, un autre piège collant couvrant la même superficie pourrait être utilisé. Comptez les adultes de chrysomèles sur chaque plant collant en distinguant les chrysomèles du nord, de couleur verte, et de l'ouest, rayés jaune et noir. Une fois les chrysomèles collés sur le piège, les 2 espèces peuvent être difficiles à distinguer. C'est pourquoi dans l'avertissement, vous aurez un lien pour accéder à un petit document contenant des photos. Pour les 4 pièges, additionnez les chrysomèles d'une même espèce, puis divisez par 4 et par le nombre de jours pendant lequel le piège est resté dans le champ. Le seuil économique d'intervention est de 4 à 7 chrysomèles de l'ouest par piège par jour ou de 10 chrysomèles du nord par piège par jour. Dans l'avertissement, on vous réfère à une série de documents qui ont déjà été publiés sur la chrysomèle des racines du maïs, notamment sur les méthodes de lutte, sur l'évaluation des dommages aux racines, sur la stratégie de prévention contre la résistance de l'insecte face au maïs BT et de l'impact de ces insectes sur la pollinisation du maïs. Légionnaire uniponctué, un autre insecte qui pourrait faire quelques dommages. Plusieurs larves de légionnaire uniponctué ont été observées dans un champ de maïs à Clarendon, en Outaouais, cette semaine. Des dommages aux soies et aux feuilles du maïs ont été constatés. La taille des larves est évaluée à 2-3 cm. La quantité de mauvaises herbes, en particulier de setaire géante et de digitaire, est élevée dans ce champ affecté par le ravageur. Dans l'avertissement, vous trouverez un graphique montrant l'évolution du nombre de légionnaires en moyenne par piège, par semaine, capturés cette année par rapport aux années antérieures. Les captures ont été très faibles cette année, mais la faible remontée des captures d'adultes vers la fin juin, début juillet, peut expliquer que quelques champs puissent être affectés par des larves issues des pondes de cette vague d'adultes. Les papillons pondent dans des champs ayant des caractéristiques idéales pour la ponte et le développement de leur progéniture. Les champs à risque qui devraient être surveillés en priorité sont les champs de céréales de printemps et de maïs semés tardivement et mal désherbés, particulièrement les endroits où il y a eu présence ou avec présence de chiens dents, les peuplements denses de céréales et de graminées vivaces et les prairies situées à proximité des cours d'eau. Les larves de légionnaires possèdent des bandes longitudinales le long du corps et un Y inversé sur la tête. Des larves de légionnaires uniponctuées à différents stades de développement ainsi que différentes couleurs peuvent être observées au même moment dans un même champ. Pour obtenir une bonne estimation des populations, il convient d'évaluer les densités de larves de légionnaires tôt le matin ou en soirée au moment où elles sont le plus actives. Pendant la journée, elles se cachent dans la végétation dense et sous les débris. Par temps nuageux, les larves se retrouvent parfois à l'intérieur du cornet des plants de maïs et sur les épis des céréales. Que faire si vous trouvez des larves? Certaines larves peuvent être parasitées. Si un grand nombre de larves est parasité, cela signifie qu'un contrôle naturel des populations est réalisé par les ennemis naturels de la légionnaire uniponctuée et qu'il faut éviter de traiter avec un insecticide. De même, il est inutile de traiter quand les larves sont très grosses, c'est-à-dire plus de 2,5 cm, car l'insecticide n'est plus efficace à ce stade. Lorsqu'elles atteignent cette taille, elles sont très voraces et causent 80 % des dommages jusqu'à ce qu'elles arrivent à maturité à 3,5 cm. Dans l'avertissement, vous avez une photo d'une larve parasitée où on voit des œufs près de la tête. Les conditions météorologiques influencent le développement des larves. Le temps sec et les températures plus élevées que 25 degrés Celsius leur sont défavorables. Seuil d'intervention. Dans l'avertissement, vous avez un tableau où on voit que pour les céréales, le seuil est de 54 à 64 larves par mètre carré, 2 à 3 % des épis coupés si les larves sont toujours présentes et actives. Le maïs, une larve par 4 plants de maïs. Pour les prairies, de 54 à 64 larves par mètre carré. Si vous trouvez des larves de légionnaire uniponctuée, merci de contacter le sérum et de leur faire parvenir des spécimens afin d'évaluer la présence d'ennemis naturels. Pourriture à sclérote, que faire en cas de symptômes de la maladie? Depuis la dernière semaine, des symptômes de la pourriture à sclérote ou moisissure blanche sont observés dans plusieurs champs de soya au Québec. En général, les champs de soya sont à des stades avancés où les gousses sont formées et en développement, c'est-à-dire R4, R5 et il y a même des champs qui sont rendus à R6. Les fongicides homologués dans le soya contre la pourriture à sclérote doivent être appliqués de façon préventive pour être efficaces. Il faut prendre en compte la période de délai de certains fongicides avant le moment de la récolte. Certains produits ne peuvent être pulvérisés au-delà du stade R3 du soya. Aucun fongicide n'est curatif contre cette maladie. À partir du stade R4, stade lorsqu'au moins une gousse de 2 cm est présente sur l'un des 4 nœuds les plus élevés de la tige principale, les risques d'infection et de dommages sont moindres. On peut tout de même se demander si une application de fongicide à partir du stade R4 du soya pourrait ralentir la progression de la maladie. Il est fort probable que non, puisque l'application du fongicide pourrait difficilement atteindre les tissus les plus affectés, c'est-à-dire ceux situés dans le bas et le milieu de la canopée. En ce qui concerne la protection des plants sains, il serait également difficile d'atteindre toutes les parties des plants pouvant servir de porte d'entrée à la maladie. De plus, une application terrestre pourrait causer une perte de rendement pouvant atteindre 5 % en raison de l'écrasement des plants de soya par le pulvérisateur. À partir du stade R4, les résultats d'une étude américaine ont démontré que des applications de fongicides n'amenaient pas de bénéfices économiques. Si les conditions sont favorables à la maladie, les dommages dans les champs infectés pourraient s'intensifier. À l'inverse, si le climat est chaud et sec, le développement de la maladie est ralenti. Comme un traitement au-delà du stade R4 est rarement efficace, si la maladie est constatée, il est important de mettre en place des mesures préventives lors des prochaines années, car les plants infectés produiront des sclérotes qui permettent à la maladie de passer l'hiver. Donc voici quelques mesures préventives qu'on peut mettre en place. Envisager l'achat de cultivars tolérants pour la culture du soya dans les années suivant l'infection. Éviter d'enfuir les sclérotes. Le labour enfuit les sclérotes, lesquelles demeureront dormants et pourront ensuite germer et infecter le soya lorsqu'ils seront remis en surface. Choisir, pour la culture subséquente, une culture non sensible, comme du maïs ou de préférence une céréale, sans travail ou en travail minimum du sol, ce qui favorisera la germination des sclérotes au printemps suivant. Les sclérotes ne germent qu'une fois, autant trouver un moyen de les épuiser. Prévoir un écartement des rangs et ajuster le taux de semis afin d'établir une densité favorisant l'aération entre les rangs et les plants. Il existe un pio fongicide qui est appliqué au sol afin de réprimer ou contrôler les sclérotes. Peu d'études sont toutefois disponibles sur l'efficacité et la rentabilité de ce produit dans la culture du soya au Québec. De l'information détaillée est disponible dans les deux communiqués suivants. La bruture à sclérote chez le soya, cycle, symptômes, moyens de lutte et de prévention. Et le document intitulé « Présence de pourriture à sclérote dans un nouveau champ, cause possible ». Vert gris occidental des haricots, état de la situation. Les captures de papillons du vert gris occidental du haricot sont en général similaires ou en augmentation par rapport à la semaine dernière. Des spécimens sont retrouvés dans la quasi-totalité de la centaine de sites de piégeage de papillons. Dans l'avertissement, vous avez un lien pour accéder aux résultats détaillés pour chacune des régions. Bien que les captures de papillons soient parfois importantes, elles ne permettent pas de prédire dans quel champ des masses d'œufs seront pondues et quelle sera leur abondance. Il est donc important de cibler des champs à risque pour le dépistage des masses d'œufs, c'est-à-dire ceux qui sont situés dans des zones sableuses, qui ont déjà subi des dommages par le passé et qui présentent une croissance inégale des plants. Au fur et à mesure que le stade avance dans la majorité des champs, le suivi des champs inégaux devient d'autant plus important. Les papillons femelles cherchent à pondre sur des plants dont les croix sont sur le point de sortir ou tout juste sorties. Jusqu'à maintenant, des masses d'œufs ont été trouvées dans la moitié des 50 champs dépistés dans le cadre du RAP. 5 champs ont atteint le seuil économique d'intervention de 5 %. Ce seuil est atteint depuis le 21 juillet en Outaouais, mais c'est seulement depuis cette semaine que l'atteinte du seuil a été constatée dans les Laurentides, en Montérégie-Est et en Montérégie-Ouest. Concernant la Montérégie-Ouest, où le risque est plus élevé qu'ailleurs compte tenu des dommages constatés dans les dernières années, le seuil d'intervention a été atteint plus tôt en 2020, lors de la semaine du 20 juillet, alors que le stade du maïs était moins avancé. Cela pourrait signifier que plusieurs champs ont passé la fenêtre la plus attractive pour la ponte sans avoir atteint le seuil d'intervention. Une attention particulière devrait cependant être portée aux champs moins avancés ou inégaux. Selon certains États américains, en présence d'ennemis naturels, le seuil de 5 % pourrait être augmenté à 8 %. Pour en savoir plus sur la technique de dépistage des masses d'œufs et des ennemis naturels, référez-vous à l'avertissement numéro 12 du 16 juillet 2021. Puceron du soya, le dépistage des champs qui n'ont pas atteint le stade R5 est toujours recommandé. Parmi les 63 champs dépistés au RAP entre le 31 juillet et le 4 août, 10 présentaient des populations supérieures au seuil d'alerte de 250 pucerons par plant. Cependant, 6 de ces champs ont atteint le stade de croissance R5 où l'on peut observer les premières graines mesurant au moins 3 mm dans les gousses situées à l'un des 4 nœuds supérieurs. À partir de ce stade, un traitement insecticide a peu de chances d'être rentable. La pression du ravageur est différente d'une région à l'autre. Sur la base des sites suivis par le réseau, les populations demeurent faibles en Outaouais et en Mauricie, en hausse en Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches, variables pour le centre du Québec et en Estrie, et en baisse dans les Laurentides, en Montérégie-Ouest et dans la région de la Naudière. Une hausse est observée en Montérégie-Est, mais la grande majorité des sites sont sous le seuil d'alerte. Dans l'ensemble, les deux tiers des champs suivis par les dépisteurs du RAP ont atteint le stade R5. Pour rappel, le seuil de 250 pucerons par plant n'est pas un seuil d'intervention, car même à des densités beaucoup plus élevées, il n'est pas recommandé de traiter si on observe une diminution ou une stabilisation des populations 3 jours plus tard. Un suivi serré du champ est cependant nécessaire pour s'assurer que la répression naturelle se poursuit. Pour en savoir plus sur le dépistage du puceron et la stratégie d'intervention, consultez l'avertissement numéro 11 du 9 juillet 2021. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter ou contacter le secrétariat du RAP.